Au quatrième top, il sera 20h, 1 minute.
Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen et son Front National accèdent au second tour de l'élection présidentielle.
N'ayez pas peur, chers compatriotes, rentrez dans l'espérance.
Ce soir-là, peu après 20h, Jean-Marie Le Pen s'adresse aux Françaises et aux Français.
N'ayez pas peur de rêver, vous les petits, les sans grade, les exclus, ne vous laissez pas enfermer dans les vieilles divisions de la gauche et de la droite.
C'est sans doute son meilleur discours. Car plutôt que d'exclure, comme à son habitude, Le Pen cherche plutôt à inclure, mais disons à sa manière.
J'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national.
Le redressement national. L'expression est mûrement choisie. Jean-Marie Le Pen est un fin connaisseur de l'histoire de France.
C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous confie.
Le redressement national, c'était l'obsession de Philippe Pétain. Et ce n'est pas caricatural de dire ça. C'est bien Le Pen qui a choisi cette expression. La suite du discours cherche à nourrir le lien entre un peuple et un chef.
Sachez que, homme du peuple, je serai toujours du côté de ceux qui souffrent, parce que j'ai connu le froid, la faim, la pauvreté.
Puis, Jean-Marie Le Pen appelle les Français à se regrouper autour de lui.
Je veux reconstruire la cohérence de notre grand peuple français, l'unité de la République, l'indépendance de la France, notre patrie.
Une patrie en danger, une nation entravée, selon Jean-Marie Le Pen.
Rétablir, bien sûr, la sécurité sur l'ensemble du territoire national et libérer nos compatriotes du fiscalisme et de la bureaucratie.
Enfin, Le Pen résume son programme et définit son identité politique.
Je suis socialement à gauche, économiquement à droite, et plus que jamais nationalement de France.
Le 5 mai 2002 au soir, Jean-Marie Le Pen sera largement battu par Jacques Chirac au second tour. Mais désormais, plus rien ne sera comme avant.
Je suis grand, assez athlétique, blond, je crois assez extraverti. J'ai un surnom, on m'appelle le Menhir. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. Une pierre levée, du granit debout, c'est un peu ça.
En avril 2022, 20 ans plus tard, Marine Le Pen, sa fille, était à nouveau au second tour de l'élection présidentielle, avec cette fois 41,5% des suffrages. Et dans la foulée, en juin, 89 députés du Rassemblement national sont entrés au Palais Bourbon.
89 députés du Rassemblement National.
89 sièges pour le Rassemblement National.
89, c'est tout simplement du jamais vu.
Ils sont tous les héritiers de Jean-Marie Le Pen. Alors, quelle est leur matrice idéologique? Et qu'incarne Jean-Marie Le Pen dans l'histoire de France? Il faut sonder son destin pour éclairer le présent. Or, le péril consisterait à voir dans ce destin celui du diable. Donc, dans cette série inédite, accompagnée de sommités universitaires, historiens et politistes, nous allons analyser la trajectoire de Jean-Marie Le Pen en nous prémunissant de nos émotions. Une seule règle, toujours la même. Expliquer, faire de l'histoire.
Alors aujourd'hui, Monsieur Le Pen, vous faites partie de la réalité de la société française. C'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir.
Je m'appelle Philippe Collin. Et vous écoutez Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Premier épisode, le pupille de la nation.
La parole est à Monsieur Le Pen.
Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres. C'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation.
Jean-Marie Le Pen, vous êtes fasciste ?
Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs ?
Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate ?
Allons, enfants de la patrie !
Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, Monsieur Le Pen, vous faites peur.
L'histoire commence début décembre 2022. Nous sommes au sud de la Bretagne. C'est la fin de l'automne et la lumière est pâle sur la baie de Quiberon. Martine Abbat, notre reporter, est arrivée de Paris par le train. Il faisait un froid de canard.
Je suis sur le port de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. C'est le village de naissance de Jean-Marie Le Pen.
Et sur place, Martine Abbat avait pris rendez-vous avec un gars du coin.
Ouais, moi, je m'appelle Florent de Carsozon, je suis à Trinitin depuis l'enfance, voilà.
Florent de Carsozon, homme d'affaires et frère d'Olivier, est un proche de la famille Le Pen. Plusieurs fois candidat du Rassemblement National dans le Morbihan, il a été élu conseiller régional RN en 2021. La Trinité-sur-Mer, Jean-Marie Le Pen y est né, le 20 juin 1928, dans une petite maison du bourg. Première étape de notre visite.
Elle est jolie, cette petite rue. Elle est bordée de murs de pierre. Et il y a des petites maisons typiquement bretonnes.
C'est très mignon, la Trinité. Vous savez, il suffit de se balader dans le village. Un mignon petit village, avec autrefois des maisons de pêcheurs seulement.
Et ici, c'était un quartier de pêcheurs ?
Tout le monde était pêcheur, hein, pêcheur, ostréiculteur.
Alors, Jean-Marie Le Pen est issu d'un milieu de marins-pêcheurs. Son père, Jean Le Pen, a un bateau avec deux équipiers. Donc, c'est vraiment une petite entreprise familiale.
L'historien Olivier Dard.
Et sa mère, croyante, pieuse, est mère au foyer jusqu'à la mort, évidemment, de son mari. Et ensuite, elle va devenir couturière et elle va essayer de faire vivre son foyer. Voilà, c'est un milieu tout à fait à la fois modeste, mais qui n'est pas non plus un milieu pauvre, dans lequel évolue ce jeune garçon qui est, rappelons-le, quand même fils unique. Ce qui a son importance et qui lui permet, d'ailleurs, d'avoir une vie un peu plus aisée que d'autres enfants. Issus de familles plus nombreuses.
Le père de Le Pen était pêcheur, alors c'est sa maison, ça, vous voyez. Voilà, si vous voyez une simple longère, voilà.
Alors si on peut la décrire, elle a un crépi blanc, des volets bleus, un petit portail bleu en bois, mais on voit pas très bien parce que les murs d'enceinte sont assez hauts, et j'ai même l'impression qu'il y a une caméra.
On a l'impression qu'il nous manque.
C'est une maison bretonne typique, avec un toit d'ardoise.
C'est là qu'il est, il a grandi, avec
sa maman.
C'est là
qu'il est né, dans cette maison, et c'est là qu'il a grandi. Et cette maison était partagée entre son père, Jean, et son oncle Louis, qui habitait la première partie, là. Voilà, on a bien connu l'oncle Louis.
C'était le frère de son père?
Oui, le frère, oui.
Il faisait quoi, lui?
Pas grand-chose, c'était un peu l'ivrogne du coin, mais c'était un type formidable que tout le monde aimait bien. Quand on arrivait chez lui, il y avait souvent son oncle qui sortait de son trou, là, un peu en haillons. Et Le Pen, très naturellement, le présentait, mon oncle Louis, comme si, effectivement, c'était le duc de Windsor. Quoi. Mon oncle, ah, bonjour, monsieur, etc. C'était assez marrant, parce qu'il ne le considérait pas comme un poivreau ou un paria, c'était son oncle.
La Bretagne est une des régions les plus pauvres en France à ce moment-là. Donc en gros, ils ne roulent pas sur l'or.
Fabien Archambault est historien.
Comme beaucoup de familles paysannes ou semi-paysannes de la France rurale de l'entre-deux-guerres, dans leur maison, hein, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le gaz, il n'y a pas l'électricité. Et ça arrive progressivement dans les années 30. Mais ça fait partie, avec le Limousin, de ces régions qui sont à l'écart de l'enrichissement qu'a caractérisé la France depuis la fin du 19e siècle.
Mon père était patron pêcheur, mon grand-père était aussi pêcheur.
Jean-Marie Le Pen, 1973.
Vous voyez d'ailleurs, je suis dans ma maison, qui est une maison de marin, tout à fait typique de ce pays, où j'ai connu tour à tour les différentes étapes de la civilisation moderne, puisque quand je suis né, le sol était en terre battue, j'ai vu arriver l'électricité, puis la citerne, puis la TSF, et puis ensuite l'eau courante même.
Et c'est une maison dans laquelle il est beaucoup venu après ?
Ah oui, 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 d'ailleurs il y vient toujours maintenant. Elle n'est plus à lui, elle est à ses filles. Mais il est venu, je crois qu'il est venu encore cette année. Je ne l'ai pas vu, Jean.
Finalement, il n'a jamais fait de très fort score ici, le Front National.
Non, jamais. Jamais. C'est amusant d'ailleurs. Mais ça n'empêchait pas aux gens de les faire la bise sur le port. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce côté... Je crois qu'il y avait un grand décalage entre la vie personnelle que les gens pouvaient avoir de gens et le fait de voter pour le Front National. C'est deux choses différentes. Voilà.
Jean-Marie Le Pen, pouvez-vous me décrire le garçon que vous étiez à l'âge de 7 ans ?
Le divan d'Henri Chapier, 1989.
J'étais un petit garçon... Les gens qui étaient sympathiques disent dynamique, ceux qui étaient sévères disaient turbulent, insupportable.
J'ouvre les bras, Dame Feignasse ! Ouais ! Je vais leur faire un pont, moi !
Un petit garçon breton, dans une petite ville de province, un petit port. Et je savais déjà lire et écrire depuis longtemps, parce que on se faisait un petit peu gloire de cette précocité dans les familles.
Et alors, vous, j'ai remarqué que vous l'appelez Jean.
Oui, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, oui.
Après, hein, il s'est fait appeler Jean-Marie.
Je crois que c'est toujours fait appeler Jean-Marie, mais que dans le cercle des gens proches, c'était Jean, quoi. Voilà. Quand je pense à Jean-Marie, je pense plus à l'homme politique ou, si vous voulez, qu'au gars d'ici. Pour moi, le gars d'ici, c'est Jean. Voilà, tout simplement.
Le prénom Jean-Marie a donc été choisi pour faire son entrée en politique. Le jeune Le Pen s'appelait Jean, comme son père. Du côté de sa mère, on trouve une famille bretonne traditionnelle.
Jean-Marie Le Pen, vous avez des origines paysannes.
Ça, faut dire, j'ai de la terre de France à mes godasses, moi, ça, il faut dire la vérité. Oui, ici, c'est le berceau de la famille de ma mère, ça. On a Locmariaquer, ici que Vincent et Maruissant Hervé, sa femme, ont élevé leurs 7 gosses, 5 garçons et 2 filles, sur 14 hectares de terre, dont 4 de landiers. Je vais vous dire que c'était pas facile. Hein.
Dans cette Bretagne à la fois de la terre et de la mer, paysans et pêcheurs, quelle éducation reçoit le jeune Jean-Marie Le Pen dans les années 30 ?
Alors, il est d'abord confié à des sœurs qui lui apprennent à lire, donc il apprend à lire très tôt. À 5 ans, il sait déjà lire en français, ce qui est important en Bretagne. Et il décide d'aller à l'école publique.
À la communale.
À la communale, ce qui ne va pas de soi. L'ouest de la France, et la Bretagne en particulier, est une des régions où l'enseignement catholique privé est le plus fort. Et donc, il est normal, par exemple, pour sa mère, qui est une catholique très pratiquante, de l'envoyer chez les curés. Mais alors, pour une raison, bon, en gros, c'est plutôt qu'il a des camarades. Il y en a un qui va à l'école laïque, et donc, il choisit d'aller à l'école laïque. Alors, cette école laïque, il en parle hein, de son instituteur, qui est le père Pourchasse, qui est un vieil instituteur, qui a été ancien combattant. C'est assez intéressant, puisque l'objectif hein, de toutes ces familles paysannes, bretonnes, depuis la fin du 19e siècle, c'est de leur faire apprendre le français, de parler bien le français, parce que bien parler le français, ça veut dire qu'on pourra réussir les concours de la fonction publique et donc s'engager dans une trajectoire d'ascension sociale, en gros sortir de cette condition, que ce soit celle de pêcheur ou celle de paysan, qui est une condition difficile.
Non, non, on parle français, les enfants.
Donc dans l'entre-deux-guerres, la Bretagne s'est vraiment francisée. Et pour ça, la Première Guerre mondiale a été très importante. tous les appelés bretons, qui parlaient pas encore tous forcément bien français, ont appris le français dans les tranchées, au contact de leurs camarades, et aussi pour comprendre les ordres qui leur étaient donnés. Et donc, en plus, avec cette culture politique, hein, qui avait été anti-républicaine, très catholique, bon, bah, y a eu la Fraternité des Tranchées, où il y a une sorte de grande réconciliation nationale. Et donc ça, c'est un peu symbolisé dans le cas de la famille Le Pen, entre le père, qui est à l'UNC, l'Union Nationale des Combattants, qui est une des grandes associations d'anciens combattants, plutôt classée à droite, et qui accepte que son fils aille à la communale avec le père Pourchasse, qui lui aussi est un ancien combattant. Et donc, voilà, on se retrouve pour communier dans une sorte de patriotisme. La Bretagne est devenue française, le petit Le Pen parle français, et les parents sont très fiers.
Je pense que vous tenez à la Bretagne, mais est-ce que vous y tenez vraiment charnellement ?
Oh, j'y tiens charnellement, physiquement, intellectuellement. Je suis de Bretagne, d'abord, bien sûr, et mon patriotisme est d'abord régional et provincial. Je suis de France, et puis je suis d'Europe aussi.
Dans cette Bretagne de l'entre-deux-guerres, l'enfant Le Pen a grandi avec un père ancien combattant et une mère bigote. L'armée et l'église. Néanmoins, il est scolarisé à la communale. Avec quelle culture ?
Il a la culture politique de la Troisième République. C'est vraiment un enfant de la communale, au sens où bah, cet instituteur ancien combattant, toute la geste patriotique qui est racontée à l'école primaire, hein, de Bayard, du Guesclin, Jeanne d'Arc. Alors évidemment, la figure de Jeanne d'Arc dans des terres catholiques est encore plus mise en avant. La figure de Jeanne d'Arc est polymorphe. À la fois, elle est appelée par Dieu pour aller combattre, pour défendre le pays contre l'envahisseur, mais, et c'est ça que retiennent les républicains à la fin du XIXe siècle, c'est une paysanne. Donc c'est le peuple, c'est une fille du peuple. Donc il y a les deux dimensions, et donc qui en Bretagne fonctionne parfaitement. Donc il y a cette espèce de patriotisme assez répandu, et en ça c'est un vrai enfant de la Troisième République, et ça n'a rien d'exceptionnel à ce moment-là.
Jean-Marie Le Pen, dans Le Pen, une histoire française, 2011. Quelle peut être l'ambition d'un petit garçon ? Fils de patron pêcheur breton, officier de marine. Parce que c'est le nec plus ultra.
Jean Le Pen, le père, nourrit une ambition d'ascension sociale pour son fils unique.
Ouvrez le bord !
Il aimerait en faire un officier de marine. Nous sommes à la fin des années 1930 et le petit patron marin pêcheur choisit de confier l'éducation de sa progéniture aux jésuites.
Aujourd'hui, Saint-Siméon Stylite. Saint-Siméon Stylite avait 13 ans et gardait les moutons de son père quand il entendit ce verset de l'Évangile.
Jean-Marie Le Pen entre au collège Saint-François-Xavier de Vannes. Nous sommes en 1939.
Avec une éducation donc, qui est à la fois très stricte, très disciplinée, mais qui en même temps a des méthodes éducatives qui sont éprouvées par le temps. Les types d'exercices qu'on donne aux lycéens du public sont hérités des méthodes des jésuites. Donc c'est notamment bah, la dissertation, par exemple. Hein, la dissertation avec la thèse, antithèse, synthèse, c'est un exercice théologique. On donne une partie de la classe l'idée de défendre une thèse théologique, l'autre la contredit, et à un moment donné, bah, comme dans le sermon, à un moment donné, il faut faire la synthèse de tout ça pour que le message soit clair pour ceux qui vont écouter la parole divine. C'est important parce que Jean-Marie Le Pen a le mérite d'être un très bon orateur. Et c'est ce qu'on apprend chez les jésuites, toutes ces techniques oratoires, comment commencer un discours pour capter l'attention. Le discours doit pas être uniforme, il doit y avoir des périodes où, en gros, les gens peuvent divaguer avant, tout d'un coup, le coup de tonnerre pour ramener l'attention, etc. Tout ça, ça s'apprend dans les classes de rhétorique. Et de ce point de vue-là, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une formation classique et une capacité à bien parler, à se faire comprendre.
Vous savez, quand j'étais chez les jésuites, on apprenait 400 vers par trimestre, 400 vers français, 200 vers latin, 100 vers grec.
Jean-Marie Le Pen, dans Le Pen, une histoire française, 2011. Je n'ai accepté d'être dirigé que dans deux institutions, les jésuites et la Légion. Parce que dans les deux cas, il s'y exerçait des hiérarchies dont la qualité était indiscutable.
Revenons maintenant à la Trinité-sur-Mer en décembre 2022. Martine Abbat et Florent de Kersauzon approchent de la seconde étape de la visite.
On va arriver au monument, moi.
Alors, c'est des petites rues.
Des petites rues du bourg, comme on dit.
Nous voilà donc devant le cénotaphe.
Voilà.
Alors, c'est un monument aux morts en pierre, en granit, qui a une forme de pyramide, un peu. Avec d'un côté le profil d'un soldat casqué, et puis de l'autre, c'est plutôt le profil d'un marin avec un béret gravé dans la pierre. Et puis donc, tous les noms des hommes qui sont tombés sur le front, en 39-45, en Indochine, en 14-18.
Et là, gravé dans le granit breton, un nom.
Le Pen J. J, c'est Jean, c'était le nom de son père.
Ouais.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à Jean Le Pen ?
Bien, d'après ce que je sais, il a relevé son filet, dans son filet, il y avait une mine. Voilà. Donc il s'est fait sauter avec son bateau et son équipage. Bon, il avait de l'autorisation d'aller pêcher, tout le monde avait besoin de bouffer, donc on allait à la pêche. Et puis, malheureusement, il y avait des mines. Soit des mines allemandes, soit des mines anglaises. Et si on ramenait ça dans son filet, on se faisait sauter avec, quoi.
Le 22 août 1942, dans la baie de Quiberon, le chalutier de Jean Le Pen remonte une mine dans ses filets de pêche. Son bateau est submergé par la vague que provoque l'explosion de la mine. Et le père de Jean-Marie Le Pen meurt noyé. Il s'agit d'un accident de guerre. Il n'est pas mort au combat. Il n'en demeure pas moins que pour son fils de 14 ans, désormais seul avec sa mère, le choc est rude.
Il est évident que c'est un drame qui frappe l'adolescent Jean-Marie Le Pen, qui bouleverse évidemment l'économie du ménage, qui le bouleverse au plan affectif, qui bouleverse sa mère.
Olivier Dard.
Dont il explique qu'elle est absolument anéantie par ce décès, d'autant qu'il va falloir plusieurs jours pour retrouver le corps du père, etc. Bon, comme ça arrive malheureusement dans tous ces drames maritimes. Donc effectivement, c'est un tournant, c'est une faille très importante dans l'adolescence de Jean-Marie Le Pen.
Un tournant dans la vie de Jean-Marie Le Pen. Et à partir de l'automne 1942, il sait qu'il ne deviendra pas officier de marine. Il décroche dans ses études.
Dans ses mémoires, il le dit, l'absence du père grandira avec le temps.
Fabien Archambault.
On peut imaginer ce que c'est le sentiment de colère et d'injustice qui fait que ça devient un adolescent, on va dire, trublion, c'est-à-dire en révolte face à toute forme d'autorité. On le qualifierait d'élève provocateur ou insolent.
Quand mon père a été reconnu mort pour la France, le tribunal de Lorient a établi la formule suivante : la nation adopte le mineur.
Le divan d'Henri Chapier, 1989.
J'ai donc eu le sentiment que je n'étais pas un petit garçon comme tous les autres. J'étais un petit garçon qui avait avec la France, avec la nation, d'autres liens, des liens de filiation. Et que si mes droits, qui étaient très minces, qui consistaient en des aides à l'éducation, étaient différents, mes devoirs s'en trouvaient aussi considérablement alourdis.
La nation adopte le mineur.
En 1946, Jean-Marie Le Pen, pupille de la nation, est exclu de son lycée breton. Il a 18 ans.
Le Pen, Jean-Marie, part à l'assaut de Paris, c'est-à-dire de la France, dès sa jeunesse.
Arrivé en région parisienne, le jeune Le Pen décroche son baccalauréat au lycée Claude Debussy, à Saint-Germain-en-Laye.
Je monte à Paris comme le font les gens de ma province, car il n'y a pas beaucoup de travail. Comme je suis boursier de l'État, je dois gagner ma vie. Et je suis marin-pêcheur, maîtreur d'appartement. Et là, je suis mineur de charbon.
Le Pen cumule les petits emplois pour financer ses études de droit.
C'est quelqu'un qui n'a pas spécialement d'argent, donc il va effectivement faire ici ou là un certain nombre de petits boulots. Et c'est également quelqu'un, je crois que c'est très important à comprendre, qui arrive à Paris sans relation. Et c'est en même temps quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui aime la vie sociale, qui se voit une âme de chef, alors qu'il l'explique dans ses mémoires, mais on le voit bien quand il va prendre un certain nombre de responsabilités associatives dans ce monde du droit. Et assez rapidement, le jeune étudiant Le Pen se fait un nom, pas tellement à cause de ses résultats, même s'il va finir par obtenir sa licence et son certificat d'avocat en 1953, mais parce que il est à la fois chahuteur, bagarreur, et surtout, il va prendre des responsabilités très importantes à ce qu'on appelle à l'époque la corpo de droit, sachant qu'évidemment, le monde étudiant est à l'époque organisé tout à fait différemment de ce que l'on connaît aujourd'hui.
Alors justement, est-ce qu'on peut déjà préciser ce que c'est que la corpo de droit, Olivier Dard ?
Alors, la corpo de droit, c'est... Corpo, c'est l'abréviation de corporation, et chacune des grandes disciplines, lettres, médecine, droit, sont organisées en corpo. Et le droit, à l'époque, évidemment, est une discipline essentielle. J'ajoute qu'à Paris, il y a, à l'époque, une seule faculté de droit qui se trouve au Panthéon. Et le quartier latin signifie, à l'époque, quelque chose. Aujourd'hui, on a beaucoup d'universités à la fois dans Paris intramuros et hors de Paris. À l'époque, toute la vie étudiante est concentrée dans le quartier latin. Vous avez la Sorbonne pour les lettres, le droit avec la corpo, la faculté de pharmacie, médecine, polytechnique qui est un peu à part mais qui n'est pas très loin, sur la montagne Sainte-Geneviève. Donc vous avez une vraie concentration de cette vie étudiante sur le haut quartier latin, avec une atmosphère qui ressemble bien davantage à ce qu'elle était dans l'entre-deux-guerres. Les choses ont finalement pas trop changé. Et surtout, elle est très différente de ce que vont être par la suite les études, en particulier à partir des années 60 et surtout après 1968.
Jean-Marie Le Pen dans Le Pen, une histoire française, 2011. Les communistes faisaient la loi. Quand je suis arrivé au quartier latin, toutes les corpos étaient entre les mains des communistes. La corpo de droit a été la première à s'en libérer.
Et alors, quelle est l'ambiance dans cette corpo de droit dans l'immédiate après-guerre ?
Alors, cette corpo de droit, elle est évidemment plutôt conservatrice, disons pour faire simple. Le droit n'est pas la discipline où l'engagement à gauche est le plus marqué. Mais cette corpo de droit, justement, elle évolue dans un milieu étudiant qui s'est gauchi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de syndicat étudiant. Il existe l'UNEF, alors l'Union nationale des étudiants de France. Et au sein de l'UNEF se retrouve un certain nombre d'AG, d'assemblées générales, issues des corpos, et toute l'affaire est évidemment la prise de direction de l'UNEF. Et l'UNEF, entre 1946 et 1950, est globalement marquée à gauche dans sa direction. Il y a bien sûr une place importante des communistes, mais il y a aussi une place très importante des chrétiens progressistes. Parmi ces gens de gauche de l'UNEF, on trouve notamment le jeune Michel Rocard, hein, qui ensuite, évidemment, s'est affronté à Jean-Marie Le Pen dans les congrès, car l'UNEF, comme la Corpo, bien sûr, mais l'UNEF est un lieu aussi d'apprentissage politique pour un certain nombre de futurs dirigeants politiques. Et donc, à partir de là, vous avez pour Jean-Marie Le Pen un double intérêt. Prendre la tête de la Corpo de droit, c'est évidemment être à la tête d'une des principales corpos de Paris, donc ce qui lui permet évidemment de jouer un rôle extrêmement important, mais à travers la Corpo de Paris, il peut aussi toucher l'UNEF et jouer un rôle dans l'histoire de l'UNEF, sachant qu'une des caractéristiques de Jean-Marie Le Pen, et ça c'est très important, c'est qu'il n'est pas ce que l'on pourrait appeler un étudiant encarté. Il est assurément un étudiant de droite, il est assurément un étudiant qui appartient au camp national, mais il est à la fois, à ce moment-là, en rapport avec les étudiants gaullistes, et une branche étudiante particulièrement active, marquée par l'anticommunisme à l'époque, mais il y a aussi, on l'oublie parfois, une remontée à partir de 1950, 49-50, une remontée des étudiants d'Action française, que Jean-Marie Le Pen fréquente aussi, un peu, sans être là non plus encarté.
Vous connaissez la définition de la Corpo. La Corpo, c'est une association apolitique et inconfessionnelle d'extrême droite.
Alors, comment est-ce que Le Pen se fait élire président de la Corpo de droit ? Bah, apparemment, c'est plutôt parce que c'est l'indépendant. C'est-à-dire qu'il est affilié à aucun courant. Donc, en gros, son élection ne sera pas vécue par un des courants comme une victoire d'un courant concurrent. Donc, il est un peu à la confluence de tous ces mouvements d'opinion qui traversent la droite française après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un très bon apprentissage politique.
Qu'est-ce que vous préférez ? Liberté, égalité, fraternité ou travail, famille, patrie ?
J'aurais tendance à si vous voulez, faire comme les enfants hein, qui me demandent s'ils veulent du chocolat et du sucre, je voudrais les deux.
Comme les enfants, donc, Jean-Marie Le Pen voudrait les deux. C'est-à-dire, eh bien, essayons de sonder le péténisme de Le Pen au début des années 50. Sans tomber dans le piège inepte de l'interprétation après coup, de quels éléments dispose-t-on ?
Alors, son rapport au péténisme, il est difficile à appréhender, encore une fois, faute de sources, mais il a quand même un positionnement bien précis. À travers une affaire où d'ailleurs, là, les gaullistes se tiennent évidemment à l'écart, ce sont les élections législatives de 1951. Car au moment des élections législatives de 1951, se présente à Paris Jacques Izorni, l'ancien avocat du maréchal Pétain, qui se présente donc aux législatives. Et Jacques Izorni va tenir une grande réunion Salvagram. Cette réunion Salvagram a été particulièrement houleuse, alors les protagonistes l'ont appelée la bataille de Wagram, mais ce qu'il est important pour nous de bien comprendre, c'est que à la tête du service d'ordre, on trouve Jean-Marie Le Pen et la Corpo de droit. Il est ce jour-là présent, il est ce jour-là particulièrement actif pour justement tenir une réunion qui est sérieusement chahutée par ses adversaires. Mais n'oublions pas que derrière le soutien d'Izorni, de cette référence à Pétain, des débats sur l'amnistie, de l'emprisonnement encore de Maurras, que d'aucuns veulent voir libérés, etc., etc. Toute une série de réunions, de manifestations qui montrent que les droites sont en train de se reconstituer. On est au tournant des années 50 et c'est un élément effectivement tout à fait important.
Donc, récapitulons. Jean-Marie Le Pen est étudiant en droit et président de la Corpo. Au carrefour de toutes les droites, y compris de l'extrême droite, puisqu'il prête main forte à Jacques Izorni, l'avocat de Philippe Pétain. Par ailleurs, souvenons-nous de ce qu'il se passe en Europe et dans le monde à ce moment-là.
À Berlin, l'Assemblée nationale de l'État allemand de l'Est vient de procéder à l'élection du président de la Nouvelle République progressiste en la personne de M. Wilhelm Pieck, l'un des leaders du Parti communiste. La nouvelle de l'élection du nouveau président a déchaîné l'enthousiasme des milices et des jeunesses populaires qui ont, avec torches et oriflamme, manifesté à cette occasion leur attachement à l'URSS en même temps qu'aux meilleures traditions de la démocratie en marche.
C'est le début de la guerre froide et Jean-Marie Le Pen y voit un ciment pour les droites.
S'il y a un fond idéologique commun, une position commune à tous ces courants, c'est l'anticommunisme. Et un réinvestissement du nationalisme français avec déjà l'idée que la France est en déclin et qu'il ne s'agit pas de perdre l'Empire dans un contexte de décolonisation. Il se fait petit à petit son idée avec comme base la défense de la nation et la nécessité de combattre le communisme pour assurer la pérennité de cette nation qui est menacée de déclin.
Ici Jacques Simon qui vous parle de New York. Depuis la parution des journaux ce matin à New York, qui annonçait l'entrée des chars américains dans la bataille de Corée, des nouvelles circulent sur une nouvelle avance nord-coréenne dans la région de la rivière Kum. C'est la guerre. Le problème est maintenant de la circonscrire dans la péninsule de Corée, de l'empêcher de s'étendre à la Chine, et de là, Dieu sait où.
On est en 1950, la guerre de Corée est là, on est à l'aube de ce qu'on pensait être une troisième guerre mondiale, il y a la guerre d'Indochine, l'Europe de l'Est est sous le joug soviétique, et évidemment, ça crée un front véritablement anticommuniste qui est extrêmement important. Et on voit d'ailleurs bien, même au niveau des élections générales, que les droites, qui étaient très amoindries en 1945-46, sont en pleine remontée électorale, puisque les élections de 1951 vont être remportées par le Centre national des indépendants et paysans, le parti de Pinay, de Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi en 1958 de Jean-Marie Le Pen, qui fut élu CNIP.
Les personnes n'ayant pas voté sont priées de se dépêcher.
En 1950, l'étudiant Le Pen grenouille à droite. Entre l'anticommunisme, un réinvestissement du nationalisme et un goût prononcé pour l'héritage radical de Charles Maurras, en prison depuis 1945 et qui meurt en 1952.
Que fut Maurras ? Une intelligence, mais une intelligence dévoyée. Un talent, mais un talent perverti.
D'autre part, le jeune Breton prend plaisir à la vie parisienne. L'alcool, la fête et la baston. Une trinité essentielle pour Jean-Marie Le Pen.
C'est quelqu'un qui est un fêtard, hein, incontestablement. Fêtard, bagarreur, buveur, amateur de femmes. Au fond, un étudiant comme l'imaginaire l'a parfois porté, et en particulier qui n'est pas sans lien, encore une fois, avec ce que pouvait être l'image de l'étudiant nationaliste avant 1914. Je reprends la vieille formule, une canne à la main, un livre dans la poche, mais Jean-Marie Le Pen, ça lui va quelque part assez bien.
Cherchez la bagarre.
Une canne à la main et un livre dans la poche. C'était la devise des étudiants d'extrême droite dans les années 30.
Demandez l'action française !
Jean-Marie Le Pen dans Le Pen, une histoire française, 2011. Juste après la guerre, on était la CBSS, confrérie des bois sans soif, dont faisait aussi partie Chaban-Delmas d'ailleurs. Il y avait à ce moment-là, au quartier latin et dans toutes les universités, des confréries dionysiaques de ce style. C'était une culture. On buvait du vin rouge. On faisait des concours de cul sec. On faisait des conneries, quoi. Voilà.
L'étudiant Le Pen aime jouer avec les limites. Arrive ensuite l'année 1953. L'étudiant Le Pen a 25 ans et il obtient son diplôme d'avocat. Il aurait pu poser une plaque, ouvrir un cabinet et emprunter le chemin du notable. Or, il fait un autre choix.
Il décide effectivement de rejoindre Saint-Mexan, donc l'école des officiers de réserve, avec notamment alors un de ceux qui fut un de ses amis, Jacques Perrat, le futur avocat et maire de Nice.
Olivier Dard.
Il décide de s'engager effectivement dans l'armée. Alors, c'est doublement intéressant, d'abord parce que comme pupille de la nation, il n'est pas obligé de faire son service militaire. Mais il veut s'engager dans l'armée, et il veut s'engager dans l'armée. Pourquoi ? Pour aller en Indochine. Et là, on retrouve la conjugaison chez lui de l'anticommunisme, de la défense de l'Empire, de la volonté de se battre et d'être actif, et pas seulement d'être uniquement dans le discours, et simplement... Évidemment, entre la décision prise de s'engager et l'arrivée en Indochine, il va s'écouler plusieurs mois. Jean-Marie Le Pen arrive en Indochine en 1954, c'est-à-dire après Dien Bien Phu. Mais entre-temps, il est passé par l'Algérie pour se former, puisqu'il est entré dans les parachutistes, il a eu son brevet para, etc., fait toute la formation nécessaire. Et lorsqu'il arrive en Indochine, c'est fini. En ce sens que Dien Bien Phu est tombé le 7 mai 1954. Les accords de Genève, donc, ont été signés en juillet. Mais l'armée française va rester jusqu'à l'été 55 en Indochine, et Jean-Marie Le Pen, par conséquent, passe toute une année en Indochine. Alors, au départ, d'ailleurs, il est sur le terrain. Simplement, au bout de quelques mois, eh bien, bon, les opérations, évidemment, à mener s'amenuisent, et Jean-Marie Le Pen finit à Saïgon pour travailler dans un journal qui s'appelle Caravelle, alors qui est le journal du corps expéditionnaire. Alors là, ça lui va très bien parce que il s'occupe de journal, bon, qui ne l'occupe pas manifestement de trop.
Jean-Marie Le Pen, dans Le Pen, une histoire française, 2011. À Caravelle, nous étions notre propre patron. On avait une Jeep, on arrivait aux messes pour prendre le petit-déj à 9h30, alors que les généraux sortaient de table et nous regardaient en se disant « Qu'est-ce que c'est que ces merdeux ?» On n'en avait rien à faire.
Et en même temps, il a une vie mondaine et il vit très tranquillement le temps qu'il soit renvoyé en métropole. Et donc là, on est à l'été 1955. Et là, quand il revient, c'est là où c'est très important, le quartier latin a changé et se pose de nouveau pour lui la question « Que faire ?»
Français, mon ami. Peut-être, en te mettant à l'écoute, te prépares-tu à entendre le défenseur des commerçants et des artisans, l'homme de la lutte antifiscale.
Pierre Poujade, 1955.
Ce Poujade, enfin, que ton journal te présente avec une bienveillance particulière, comme l'énergumène uniquement soucieux d'organiser le refus systématique de l'impôt. Nous en reparlerons un jour.
Pendant que le parachutiste Le Pen végète en Indochine, Pierre Poujade, lui, s'est fait un nom sur la scène politique française. Une aubaine pour Le Pen.
Le mouvement poujadiste, il a commencé en 1953, c'est une révolte antifiscale qui a pris de l'importance au fil des mois, à travers des manifestations assez visibles de refus de l'impôt. On décide de lutter contre les polyvalents, comme on les appelle à l'époque, en les empêchant de faire un certain nombre de contrôles fiscaux.
Les polyvalents, c'était le surnom donné aux contrôleurs fiscaux.
Et cette lutte contre les polyvalents, elle n'a rien de nouveau. Dans l'entre-deux-guerres, on avait déjà assisté à ce genre de choses. Et la Ligue des contribuables, dans l'entre-deux-guerres, était une organisation assez proche de l'Action française. Donc vous avez toute l'histoire d'un mouvement antifiscal, marqué à droite, du côté ligueur, dans lequel le poujadisme s'inscrit, même si il le dépasse par son audience. Bon. Mais ce mouvement antifiscal, qui agrège commerçants, artisans, va décider, sous l'impulsion de son leader, Pierre Poujade, de se présenter aux élections. Alors, Pierre Poujade est un petit papetier de s'insérer dans le Lot. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui vraiment la France périphérique. Il est un petit papetier de s'insérer qui a commencé à faire parler de lui, justement, à travers la lutte contre les contrôles fiscaux. Alors, Pierre Poujade n'est pas complètement vierge politiquement. Il a un passé plutôt marqué à droite, lui aussi. Mais c'est vraiment dans les années 50 qu'il donne à voir la mesure de ce qu'il est capable de faire. Et au départ, d'ailleurs, il est plutôt soutenu par le Parti communiste, ce qu'on a un petit peu oublié. Parce que ça met évidemment la 4ème République en difficulté. Mais au fur et à mesure, ce soutien évidemment disparaît, parce que Poujade prend de l'importance et, au fond, va construire un projet, une opposition à celui qui symbolise la modernité à l'époque, c'est Pierre Mendès-France. L'opposition Poujade-Mendès-France est absolument fondamentale. C'est deux Frances qui s'affrontent. La France des indépendants paysans qui est en train de décliner à partir des années 50, à l'heure d'une reconstruction qui est en train de se transformer en modernisation. L'exode rural devient de plus en plus marqué. Et face à cela, il y a évidemment la politique modernisatrice promue par Pierre Mendès-France qui, d'un côté, a voulu en finir avec la guerre d'Indochine.
Le cessez-le-feu a été signé.
Au nom du gouverner, c'est choisir, nous ne pouvons plus financer une guerre coloniale de cette ampleur, d'autant qu'il faut moderniser le pays. Donc on a vraiment deux profils, deux discours, deux projets très différents.
et je voudrais que chaque Français, ouvriers, paysans, fonctionnaires, jeunes et vieux, comprennent avec nous qu'il sera sauvé avec la France ou qu'il sera perdu avec elle.
Pierre Poujade, 1955.
C'est donc en français moyen que je te parle. Un homme, parmi ces millions qui travaillent chaque jour et qui, au soir d'une rude journée, mettent la main sur l'épaule de leur femme pour regarder des enfants qui grandissent en s'interrogeant anxieusement sur leur avenir. Hélas, lorsque l'État livré aux factions et aux puissances d'argent ne remplit pas son rôle d'arbitre impartial, que devient donc la liberté pour les petits que nous sommes?
Cette France des petits propriétaires, qui était très rétive au salariat, qui était la clientèle du Parti radical.
Je vous rappelle que le Parti radical, c'est un parti centriste.
Ces classes moyennes-là, c'est eux qui ont fondé la République. C'est eux qui ont voté pour le Parti radical, qui est le rempart de la Troisième République quand elle est contestée dans la crise des années 30.
Fabien Archambault.
L'idée de, du petit contre les gros. Donc il y a toute une rhétorique anticapitaliste qui était jusque-là marquée à gauche, mais dans un contexte de désarroi d'une catégorie sociale qui est en train de disparaître, bascule dans quelque chose dont on ne sait pas trop au départ ce qu'elle est politiquement. D'ailleurs, le Parti communiste, au départ, essaye de récupérer le mouvement poujadiste. Cette rhétorique du petit contre les gros, c'est celle qu'il a adoptée au moment du Front populaire pour justifier que le combat communiste se nationalisait, qu'il était républicain pour défendre la République. Après, les communistes laissent tomber parce que le mouvement est trop gros, donc ils ne peuvent pas le contrôler, parce que c'est un mouvement de masse, hein, c'est une vraie lame de fond qui mélange des thèmes. C'est-à-dire qu'il y a donc les petits contre les gros, la vraie France des travailleurs contre les gros, ben on ne sait pas trop qui c'est, et ça devient l'État. Donc c'est aussi la mise en place de l'État social. Qui dit mise en place de l'État social, bah dit une fiscalité qui permettra la redistribution des fruits de la croissance. Et là, en fait, ces classes moyennes indépendantes deviennent anti-étatiques.
Les mesures sociales prises à la Libération, comme la sécurité sociale par exemple, nécessitent de prélever des impôts. Et une partie des commerçants, qui s'inquiètent de disparaître à cause des taxes, se révoltent contre l'État social.
Et il y a un nationalisme aussi, de défense. Il faut conserver l'Empire. Perdre l'Empire, bah, ça devient une métaphore. Tout ça décline, on va disparaître, mais comme tout est en train de disparaître dans l'Empire français. Du racisme, de l'antisémitisme, puisque cette opposition à la politique de Pierre Mendès-France devient une résurgence de relents antisémites qui n'existaient plus depuis 1945.
Tu es en France depuis quelques générations, je te l'accorde.
Discours antisémite de Pierre Poujade, 1956.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Dupont, de Durand, de Poujade qui ont apporté leur sang, n'est-ce pas, avec le tien? Est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. C'est toi le raciste, puisque tu n'as pas voulu te mélanger. Tu es venu profiter de la communauté française, de tout ce qu'elle t'a apporté, de cette générosité. Tu en as profité, tu t'es enrichi, tu t'es développé, et tu es resté là, dans ta secte.
Donc, ce qui vaut que, par exemple, Roland Barthes, qui, en 1954-1955, publie des textes d'analyse de l'actualité, il y a un texte sur Poujade où il en fait le fasciste. Il dit, voilà, c'est le nouveau visage du fascisme. Voilà, c'est pas juste une jacquerie fiscale, ça peut être dangereux.
Pierre Poujade, d'apparence, est le type même du français moyen. Brun, avec des yeux clairs, il a 34 ans, une famille et 4 enfants. Il parle d'abondance, avec de la bonne volonté et de la maladresse. Il fait son apprentissage de démagogue. Les mots de liberté, de fraternité, de patrimoine, de maire de France ponctuent ses propos. Et les gens rassemblés sous sa bannière l'écoutent comme un sauveur.
Ce poujadisme, Jean-Marie Le Pen en a entendu parler en Indochine, en faisant tout simplement ses revues de presse pour Caravelle. Mais à l'automne 1955, il rencontre Poujade, ils vont se rencontrer dans une brasserie du Châtelet,
Et ils échangent un peu entre eux, et Poujade lui explique qu'il s'agit de se présenter aux élections. Le jeune Le Pen se voit proposer d'être candidat. Bon, sur le moment, il est un peu perplexe, mais il va suivre Poujade dans un premier meeting à Blois. Et puis ensuite, Poujade va l'embarquer comme orateur à Rennes. Et alors là, c'est le début, évidemment, de Jean-Marie Le Pen, qui va faire merveille dans les meetings poujadistes et qui va pouvoir donner toute la mesure de talents oratoires qui sont incontestables. Et donc, à l'automne 1955, il est en train d'amorcer une carrière politique. Une carrière politique de candidat aux élections législatives. Il va être candidat à Paris. Et le mode de scrutin étant un mode de scrutin proportionnel, il a évidemment toutes les chances d'être élu, ce qui va être le cas.
Françaises et Françaises de moins de 30 ans, c'est à vous que je m'adresse.
Jean-Marie Le Pen, campagne électorale, 1955.
Le mouvement Poujade a voulu précisément que je prenne à 27 ans la tête de sa liste dans le premier secteur de la Seine. Et par ma bouche, il vous dit, par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants corrompus et incapables. Dans la fraternité, nous reconstruirons ensemble une France libre, forte et jeune. Fraternellement unis, votez tous, Français, le 2 janvier pour les listes présentées par le mouvement Poujade.
Il obtient 12,5% des voix, 52 députés. Et donc, le leader de ce groupe parlementaire, c'est Jean-Marie Le Pen, celui qui sait s'exprimer le mieux. Il a fait des assemblées générales étudiantes. C'est pas l'Assemblée nationale qui va lui faire peur.
Le Palais Bourbon a retrouvé son animation. Animation des grands jours, puisqu'il s'agissait non d'une normale rentrée parlementaire, mais de l'installation de l'Assemblée issue des récentes élections.
ORTF, janvier 1956.
Dans l'hémicycle, anciens et nouveaux députés ont pris place selon leur formation politique, à l'exception des 52 représentants du parti Poujade qui se sont dispersés sur les crêtes pour ne pas siéger à l'extrême droite. Voici ouverte la troisième législature de la 4e République.
À 27 ans, en janvier 1956, Jean-Marie Le Pen est élu député à Paris et il devient le porte-voix de Pierre Poujade.
Et Poujade dira de nous un jour, c'était le petit drapeau français sur le tiroir-caisse. Une belle formule.
Mais Jean-Marie Le Pen comprend très bien à ce moment-là que l'UDCA, le poujadisme c'est l'UDCA, l'Union des commerçants et artisans, qui est en train de s'étendre aux paysans, et Jean-Marie Le Pen va assez rapidement avoir l'idée de faire en sorte que ce poujadisme, qui remporte une cinquantaine de sièges aux élections du 2 janvier 1956, ce poujadisme ne soit pas qu'un feu de paille, qu'autour du poujadisme puisse se constituer une véritable force politique qui soit aussi une force électorale qui pourrait, évidemment, s'installer durablement dans le paysage politique français. Et Le Pen a d'autant plus d'espoir avec le poujadisme que le poujadisme a un écho incontestable en Algérie. Et donc, ce qu'il imaginerait très bien, c'est que le poujadisme soit véritablement le fer de lance de l'Algérie française, de la défense de l'Algérie française au Parlement.
Mais je ne vais pas rester longtemps à l'Assemblée puisque le gouvernement socialiste de Guy Mollet envoie le contingent en Algérie et comme je m'estime en âge de servir, je quitte l'Assemblée pour servir dans mon régiment, le premier régiment étranger de parachutistes. Et là, c'est le général Massu qui me décore la croix de la valeur militaire.
En conclusion de ce premier épisode, il faut avoir à l'esprit que Jean-Marie Le Pen navigue dès sa vie d'étudiant dans les eaux troubles du nationalisme. Il est persuadé que la France éternelle se délite et il fulmine contre la fin de l'Empire colonial.
Vive l'Algérie française !
La guerre d'Algérie va alors cimenter toutes les droites radicales de l'Hexagone.
Vive la France !
Jean-Marie Le Pen et la guerre d'Algérie, c'est l'horizon du prochain épisode. Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin, et Romain Couturier. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Benjamin Orgeret et Basile Bocquer. Prochain épisode, le chagrin et le ressentiment. Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale, est un podcast original de France Inter.